Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé ce dimanche 28 janvier 2024 leur retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les trois pays disent avoir constaté avec beaucoup de regrets, d'amertume et d'une grande déception que l'organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. La CEDEAO dit ne pas être encore saisie et laisse la porte ouverte au dialogue. Quelles seront les conséquences de ce retrait pour les deux parties s'il se concrétise? Une solution négociée est-elle possible? Nos invités pour en parler, Ibrahim Sissoko, analyste politique, Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, et Dr Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquent la porte de la CEDEAO. Dans un communiqué conjoint, ces pays de transition indiquent que l'organisation est devenue une menace pour ces États membres, suivant donc la déclaration du colonel Abdoulaye Meïga, porte-parole du gouvernement malien.
La CEDEAO, c'est l'influence des puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidés. Face à cette situation qui perdure, leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchiani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Docteur Ahmadou Touré, cette sortie annoncée des États du pays du Sahel de la CEDEAO vous a-t-elle surpris?
Bonsoir, collègues et chers auditeurs. Non, pas du tout, parce que ça semble bien que l'AS qui a été créée, il est bon aussi de savoir pourquoi l'AS a été créée, les conditions de création de l'AS. L'AS a été créée parce qu'il y a une question cruciale de survie et d'existence même de ces États qui la composent. Et aussi l'AS, depuis sa création, s'était engagée dans une dynamique de rupture totale et indépendante de la France. Ça semble bien que la France aurait des implications, des ingérences au sein de la CEDEAO. Donc cette situation était attendue. Parce que l'AS est une structure qui structurelle, une structure conjoncturelle, mais une fois structurée, ne peut pas coexister et exister avec la CEDEAO. Soit c'est la CEDEAO, soit c'est l'AS. Et l'AS n'est autre chose que la version réformée ou adaptée à la place de la CEDEAO. Parce que l'AS joue un rôle important et qui répond aux besoins de ces trois pays. Donc ce n'est pas une décision qui m'a surpris.
Donc vous estimez que c'était prévisible?
C'était prévisible parce que depuis un moment, la CEDEAO jouait un peu sa survie au sein de l'AS. Parce qu'on ne parlait plus de CEDEAO, on parle uniquement de l'AS. Et aussi, n'oubliez pas qu'il y a ce qu'on appelle la notion de souveraineté qui caractérise le paysage politique dans ces trois pays. Et c'est cette souveraineté caractérisée qui a pu trouver un contenu, ce qu'on appelle le patriotisme, assumé par les trois chefs d'État, qui veulent vraiment faire la différence entre les phases de décolonisation politique et la décolonisation avec souveraineté politique. Donc nous sommes dans une rupture totale qui va se faire, certes. Mais à quelles conditions, à quels frais, l'histoire en tiendra. Parce que la dynamique est là. C'est une dynamique de rupture avec tout ce qui aurait existé ou qui a un lien avec la France. C'est toujours la France qui est là. Parce que vous allez voir bientôt, ça va être le cas du franc CFA, je ne le souhaite pas, mais c'est comme ça. Et après, nous allons voir la question de la langue française, parce que c'est une rupture totale qui est en train de se passer. et c'est de façon méthodique et réfléchie. Voilà.
D'accord. Ibrahim Sissoko, vous êtes analyste politique. Cette rupture avec la CEDEAO annoncée par les États de l'Alliance, est-ce que c'était prévisible selon vous? Est-ce que ça a été c'est une surprise pour vous?
Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs et auditeurs de vos radios partenaires et télé. Ceci dit, je rejoins carrément docteur dans son analyse par rapport à cette sortie. Il faut reconnaître que pour tous les esprits avertis, cette sortie n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise en ce sens que le lien était déjà rompu entre la CEDEAO et ses trois États membres de l'AES. Donc ces trois gouvernements, ces trois autorités n'avaient plus de lien avec les responsables de la CEDEAO. Donc vous voyez déjà que de laxisme en laxisme, les chefs d'État qui constituent la CEDEAO sont d'arriver à amener ces trois États membres à prendre les responsabilités. Donc c'était carrément une sortie prévisible. Ce n'était pas la volonté de ces États de sortir de la CEDEAO, mais c'est une volonté manifeste des chefs d'État, des 13 autres chefs d'État, et sinon des 12 autres chefs d'État de la CEDEAO qui ont poussé ces États, ces trois États à sortir de la CEDEAO. Donc c'était carrément prévisible.
D'accord. Les arguments avancés par les États de l'Alliance, est-ce que c'est justifiable?
Ben, c'est ce que je disais, c'est justifiable. On ne peut pas asphyxier, par exemple, le Niger économiquement, asphyxier le Mali économiquement, asphyxier le Burkina économiquement, alors que la mission fondamentale et régalienne de la CEDEAO, c'était une intégration économique. Donc, dès l'instant que cette intégration économique a échoué, il y va de soi que toutes les pièces, n'est-ce pas, du puzzle puissent se dégringoler. Donc, c'était réellement prévisible et les arguments tiennent. Et surtout, quand on analyse le discours de ces trois États, le discours emblématique et historique de sortie de cette organisation, vous allez voir déjà qu'ils ont planté les décors déjà à travers une reconnaissance que le Mali, le Burkina, le Niger étaient déjà à la base de la création de cette organisation sous-régionale. Ça, c'est une remarque de taille. Ils ont cité ces chefs d'État, de ces États, qui ont eu à réfléchir et à cogiter avec d'autres pères africains pour la création de cette organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quoi? Ils ont fait le constat que toute la mission assignée à la CEDEAO a été carrément mise en revers par les chefs d'État de ces États. Donc du coup, la sortie est légitime, la sortie était prévisible. Et maintenant, comme le docteur l'a dit, quelles vont être les différentes articulations que cette sortie va découler à partir de maintenant, c'est la question, ce sera à ce niveau.
D'accord. Cette sortie était visible et justifiée selon les deux intervenants. Alors, vous êtes analyste, vous êtes spécialiste en relations internationales. Quelle lecture faites-vous des arguments avancés par les trois États pour justifier cette décision de retrait?
Merci. Je commence par saluer nos téléspectateurs et toutes les personnes qui nous écoutent aussi sur les différentes radios. Et merci pour l'invitation. Vous savez, pour un chercheur, il n'est jamais facile d'analyser l'actualité parce que ce sont des événements qui sont encore mouvants et donc on manque de recul, et ce qui est un exercice toujours compliqué. Mais pour partager le peu que nous appréhendons, je pense que l'exercice mérite d'être pratiqué. Et c'est pour cela que je suis là, pour jouer ce jeu. Ce n'est pas facile parce que, d'abord, il y avait effectivement des signes qui laissaient croire que les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, pouvaient en tout cas envisager de telles décisions. D'abord, commençons par le Mali. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA prises contre le Mali ont été vécues au Mali par les populations maliennes comme une sorte d'humiliation, et ces sanctions ont été qualifiées à l'époque d'illégales et d'illégitimes. Et donc ça a même amené certains à qualifier la CEDEAO, n'est-ce pas, de syndicat des chefs d'État. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'il y avait déjà un problème d'appropriation de la CEDEAO par les populations des régions. À l'époque, je disais que la CEDEAO, sur ce point-là, est encore une institution qui est une construction inachevée. Elle est une construction inachevée parce que l'objectif, la mission de démocratisation et de sécurisation qu'elle se donne, et de développement économique que la CEDEAO se donne, elle n'est pas encore arrivée véritablement à se doter des moyens nécessaires pour y parvenir. Prenons la question de la sécurité. La CEDEAO n'a pas encore véritablement pu mettre un outil efficace de sécurité collective en place. Parce que quand la crise malienne a commencé, ce n'est pas l'ONU qui est venue d'abord, c'est les pays de la CEDEAO qui ont essayé. Mais qui, conscients de qu'ils ne sont pas en mesure d'aider le Mali à sécuriser, ce qui a laissé la porte ouverte à l'intervention de la communauté internationale, dont notamment l'ONU. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi suffisamment à développer, c'est-à-dire l'aspect économique à telle enseigne qu'on puisse se défaire de l'aide internationale. On n'a pas encore réussi véritablement à développer comme il le faut, c'est-à-dire les échanges commerciaux, financiers dans notre espace, à telle enseigne qu'on soit moins dépendant des autres espaces. Donc, voyez-vous, la construction est encore là. En termes de gouvernance maintenant, la plupart des crises dans nos pays partent souvent des questions électorales. Et la CEDEAO n'a pas véritablement ce rôle-là de s'immixer dans ces affaires considérées comme étant internes. Et donc, des questions de souveraineté font que cela échappe à la CEDEAO. Donc, elle n'arrive pas à jouer le rôle que, attendu pour apaiser les élections, c'est-à-dire en amont. Donc, aujourd'hui, ces portes-là ne sont pas ouvertes. Donc, autrement dit, c'est-à-dire les attentes sont tellement grandes et que les contestations qu'il y a eu récemment, on sent que la CEDEAO n'a pas pu véritablement les engager, c'est-à-dire les digérer pour apporter des réponses satisfaisantes. Le second signe qui est une conséquence de toutes ces contestations, c'est la création de l'Alliance des pays du Sahel. Donc, la création de cette alliance est quand même un signal fort. Voilà, un de mes co-débatteurs le disait tout à l'heure. Est-ce que les États qui créent l'AES n'ont pas cette ambition justement d'occuper les rôles qui étaient antérieurement dévolus à la CEDEAO? Est-ce qu'ils n'ont pas une ambition même de s'agrandir dans le même espace? Si tel est le cas, voyez-vous, ça serait comme si voilà, vous avez un même terrain qui est concurrencé par des entités qui ont les mêmes finalités. Donc, c'est un enjeu très, très important.
Est-ce que ces arguments sont recevables?
Tous les arguments sont recevables en ce sens qu'on tente de comprendre. On tente de comprendre, nous ne sommes pas dans les secrets. C'est les chefs d'État qui peuvent en dire mieux que nous et qui ont l'ensemble des données. L'analyste n'a pas toutes les données, donc il analyse avec les données qu'il a en sa possession. Donc, je continue en disant que, oui, on peut comprendre cette volonté parce que la CEDEAO, quelque part, on peut aussi comprendre. Parce que, et là, je dis de faire attention, de ne pas prendre cette décision des trois pays comme une simple menace de renégociation d'un retour au sein de la CEDEAO. Il est vrai aussi qu'effectivement, c'est un message parce que l'annonce de la décision de retrait, il y a quand même une période de un an pour son effectivité. Ça peut être l'occasion, et ce que j'ai toujours demandé.
Nous allons parler des textes plus.
Oui, je termine sur ce point pour vous dire que c'est une occasion, si la CEDEAO peut le prendre comme une occasion, de se refonder. Refonder la CEDEAO voudrait dire aujourd'hui être conscient que à l'état actuel, on n'arrive pas à répondre à la demande des États et des populations. Et donc, il faut rebâtir une organisation qui soit à mesure de prendre tous ces enjeux en main. Et donc, une occasion de rediscuter et de refonder la CEDEAO, qui peut aussi être l'occasion pour les pays comme le Mali, le Burkina et le Sénégal, de porter leurs demandes et de voir voilà, à quelle mesure on reste ensemble.
D'accord. Docteur Touré, y aurait-il d'autres raisons non évoquées dans le communiqué qui justifieraient cette sortie?
Oui, il y a toujours des raisons, parce que si on suit un peu l'extérieur, il y a une évolution de l'autre côté avec les puissances occidentales. Des rumeurs courent. Même la création de l'AS, c'est un pacte de défense mutuelle. En cas d'agression d'un pays tiers, la conséquence serait le retrait. Or, qu'est-ce qui se passe en ce temps? Il y a beaucoup de rumeurs qui courent, qu'il y a quelque chose qui se prépare contre ces pays. Et aussi, la dynamique est qu'il y avait une délégation de la CEDEAO qui devrait venir, qui a été avortée.
Vous faites référence à l'annonce de la CEDEAO d'attaquer le Niger?
Oui, c'est-à-dire que c'était ça même qui était à la base de la crise. Parce que c'est un pacte de défense mutuelle que le Mali et le Burkina ont décidé d'acter. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? L'AS, dans sa création initiale, est en train d'évoluer. Quitter catégoriquement la sécurité pour s'attaquer aux questions essentielles, c'est-à-dire la gouvernance de l'AS, qui n'est pas encore achevée, à mon avis. Parce que, certes, on va quitter la CEDEAO, mais comment on va tenir? Il va rester l'IOMA, il va rester le franc CFA. Donc, il faut toujours que cette dynamique puisse être évoluée vers une monnaie, ce qu'on appelle la monnaie de l'AS, si la dynamique continue. Et une fois que cette monnaie va être créée, c'est ce qui va créer ce qu'on appelle la distinction et la différence entre ce qui se passe pendant les années avec les pères indépendantistes et avec l'AS. L'AS n'est autre chose que la souveraineté et qui se fonde sur l'ambition des peuples du point de vue adhésion et du point de vue de manifestation, c'est l'idéologie populaire qui est soutenu à ce moment. Mais la création de la monnaie a aussi ses inconvénients. Donc, on va en parler dans ce débat. Donc, c'est-à-dire que ce qui est essentiel ici, c'est de retenir que l'AS, sa création est justifiée du point de vue sécuritaire, du point de vue de reconquête territoriale, du point de vue d'affirmation, du point de vue de respect mutuel, que ces trois États, et aussi, comme l'a dit notre collègue, que ces États étaient dans un moment donné, ont eu besoin de la CEDEAO. Et la CEDEAO n'était pas là. Donc, ce qu'on appelle un abandon de la CEDEAO. Et qu'est-ce qui motive cet abandon de la CEDEAO, au dire des pays de l'AS? C'est qu'il y a une ingérence. Donc, cette ingérence tourne autour de qui? Toujours là, la France. Et si vous voyez, dès que les pouvoirs se sont mis, les régimes se sont mis en place, il y a directement une rupture directe et frontale avec la France. Donc c'est ce qui amène que, pour dire que l'AS est toujours dans sa dynamique, l'AS est toujours dans son rôle.
D'accord. Une consultation du peuple via les organes législatifs est-elle nécessaire avant de prendre une telle décision qui engage tout un peuple?
Oui, c'est tout à fait souhaité, mais la façon dont les choses sont passées, je pense que l'adhésion est déjà là. Parce que si nous suivons le Mali, et le Parlement n'a rien dit. Dans les autres pays, les parlements ne font que... Certainement, ils vont acter la démarche. Maintenant, est-ce au peuple de décider ou aux dirigeants de décider? Je pense que, comme l'a dit le professeur, on n'est pas à un certain niveau pour avoir certaines informations. Mais ce qui est bon ici, de retenir que l'AS est toujours là en tant qu'entité qui défend et qui serait mieux adaptée aux problèmes des trois pays. En termes de défense, en termes de coopération, en termes de renseignement, en termes de lobbying politique. Mais il est bon souvent aussi de demander l'avis du peuple, parce que quel qu'en soit le fait, c'est le peuple qui va en subir les conséquences.
D'accord. Alors, quelle est la part de responsabilité de la CEDEAO dans cette décision des autorités de l'AS?
Mais c'est ce que je disais tout de suite. La part de la responsabilité de la CEDEAO, elle est vraiment grande et elle est entière. Elle est entière en ce sens que la CEDEAO a oublié sa mission régalienne. La CEDEAO est arrivée à un niveau où cette institution s'est ingérée, n'est-ce pas, dans les affaires internes des États. La CEDEAO n'est pas une institution de régulation politique. Ce n'est pas une institution de démocratisation des États membres. Non. Mais qu'est-ce qui s'est... C'est pourquoi on parle de l'influence de l'extérieur. Et moi, je pense que si vous regardez les 15 pays qui forment la CEDEAO, vous allez voir que c'est les États, les pays francophones qui sont le plus dominants. Et c'est cette dominance qui fait que la main de la France est visible. Parce que la CEDEAO étant à dominance des pays francophones, la France étant quand même cet État paternaliste qui voulait toujours continuer à avoir la main mise sur ces États, il y va de soi que lorsqu'un État décide d'outrepasser les mesures ou les décisions de la France, il y va de soi que la France aille auprès, n'est-ce pas, d'autres États pour pouvoir, n'est-ce pas, faire prévaloir son influence afin d'amener ce pays qui s'échappe, n'est-ce pas, du giron français pour, n'est-ce pas, être recadré. Donc, c'est ce tact qu'on a vu des cas où le président français Emmanuel Macron sort, il fait part, n'est-ce pas, de ses envies ou de ses mots par rapport au Mali. Et après, ces dits sont actés par la CEDEAO quelques jours après, au cours d'un sommet. Donc, on s'est rendu compte réellement que la mainmise de la France sur la CEDEAO, c'est une main réellement visible, c'est une main palpable et ce n'était plus caché. Donc, c'est ça qui a légitimé, n'est-ce pas, la création d'abord de l'AIS. D'accord. Parce que ces États membres de l'AIS, ils se sont vus assujettis au même problème. Ils ont aspiré à solutionner leurs problèmes à travers des solutions endogènes. Et c'est cela maintenant ce qui est enclenché. Vous avez touché tout de suite quelque chose qui met un peu en exergue un peu le manque de légitimité de cette décision de ces États, parce que réellement il devait avoir la consultation d'un organe consultatif tel que
le CNT.
Le CNT au Mali et puis d'autres organisations au niveau du Niger et au niveau de
Burkina. Alors, ces autorités ont parlé d'un retrait sans délai. Que signifie, selon vous, retrait sans délai juridiquement et techniquement?
Ben, je ne suis pas juriste en la matière, mais un retrait sans délai, c'est un retrait qui rentre en vigueur par ces pays qui ont pris cette décision en temps réel. Mais il faut reconnaître que, comme on l'a dit, les textes de la CEDEAO stipulent que le retrait d'un pays et d'un État membre de la CEDEAO, pour être acté, il faut un an. Mais il faut reconnaître que quel est le lien aujourd'hui entre l'AIS et la CEDEAO? Qu'est-ce qui va être acté dans un an? C'est peut-être les documents juridiques qui permettent aux gens de voyager, tels que les passeports, qui vont peut-être être annulés définitivement à partir d'un an. Mais à part ça, quel est aujourd'hui l'impact de la CEDEAO sur cette organisation de l'AIS aujourd'hui? Quelle est la relation diplomatique? Il n'y a aucune relation diplomatique aujourd'hui entre l'AIS et la CEDEAO. Il n'y a aucune coopération aujourd'hui entre coopération, que ce soit dans le cadre du développement, que ce soit dans le cadre... Donc, il n'y a aucun lien aujourd'hui, n'eût été certains documents et une reconnaissance géographique de cet espace CEDEAO. Sinon, réellement, la rupture était déjà là, la rupture était déjà consommée.
D'accord. Sissoko regrette que cette décision n'aurait pas été soumise à consultation. Est-ce à dire que cette décision devait être soumise, selon vous, au préalable aux membres du Conseil national de transition?
Alors, déjà, il faut voir que d'abord, il n'y a aucun texte qui est violé. La Convention de Vienne sur le droit des traités reconnaît le droit à tout État à tout moment de dénoncer un traité, un accord. Maintenant, quand vous dénoncez un accord, généralement, il y a une procédure de retrait, comme le cas des trois pays aujourd'hui, qui est généralement dans le texte fondateur lui-même, c'est-à-dire qu'on appelle parfois le traité constitutif. Et dans le cas espèce, je pense que c'est ça, ce que je disais, que la CEDEAO est une construction inachevée. Dans le cas espèce, contrairement à ce qu'on a vu en Europe avec le Brexit, vous voyez, c'est un référendum carrément que les Anglais ont dû faire pour sortir. Parce que vous trouverez que voilà, vous avez des produits qui l'exigent. Donc la CEDEAO a été créée sur la base de la volonté des chefs d'État africains à un moment donné et c'est resté essentiellement une organisation politique. Mais c'est de façon progressive qu'elle a commencé à se donner d'autres missions, notamment sa mission en matière de maintien et de sécurité dans son espace, voilà, qui est un protocole, qui est l'ECOWAX. Sa mission en matière de démocratie, notamment le maintien, c'est-à-dire dire qu'il n'y a nulle autre voie d'accéder au pouvoir que par la voie des élections, et que lorsque l'ordre constitutionnel est menacé quelque part, la CEDEAO, en vertu de ce protocole-là, va intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel. Tout comme sa mission en matière de monnaie, vous savez que la CEDEAO a nourri cette ambition de créer une monnaie qui est l'éco-voyage. Progressivement, on a commencé à faire ces choses. Mais au même moment, la CEDEAO n'est pas venue cette chose-là des peuples, c'est-à-dire qu'on a peu travaillé sur l'ancrage, si vous voulez, culturel, populaire, c'est-à-dire la dimension sociale. On a moins travaillé à mettre véritablement ces peuples ensemble et de les mettre au cœur de la gouvernance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les décisions au niveau de la CEDEAO dépendent des chefs d'État et non pas des populations. Les populations ne sont pas les détenteurs du pouvoir, c'est-à-dire les populations de l'espace CEDEAO, exactement, c'est-à-dire ils bénéficient ou subissent les effets de ces décisions, mais ces décisions n'émanent pas de ces populations-là. Et ça, c'est un problème. Et c'est un problème important que la CEDEAO doit résoudre, contrairement à des espaces d'intégration comme l'Europe, où il y a un citoyen véritablement européen. On n'a pas ça. Et c'est des marches que la CEDEAO doit prendre dans les années à venir. Et donc, pour dire que tout simplement, tant que les textes de la CEDEAO même n'ont pas prévu que le retrait puisse se faire par les peuples, c'est-à-dire que ce soit le peuple directement ou les représentants des peuples donnent leur accord, dans ce cas, les États continuent à le faire conformément à la position telle qu'ils le veulent. Et c'est ce que des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger tentent de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de violation du droit international ici. Mmh. C'est conforme. Maintenant, on peut se poser les questions maintenant sur les conséquences.
Avant de poser des questions sur les conséquences, on en viendra. Merci. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Retrait avec effet immédiat, juridiquement et techniquement, est-ce possible?
Oui. Quand on dit qu'un État est souverain, ça veut dire quoi? Jean Bodin nous l'enseigne dans les classiques. Ça veut dire qu'il peut tout, quoi. Et c'est comme si il fait ce qu'il veut. Voilà. Et il dit que je me retire. C'est le droit d'un État. Maintenant, mais il est obligé quand même d'observer les procédures en la matière. Et ces procédures, c'est son consentement lui-même. Donc l'État n'est limité que par sa propre volonté, autrement dit, c'est consentement. Et c'est une continuité. À un moment donné, le Mali, en créant la CEDEAO, a mis ses conditions avec ses États pairs, qui est voilà, cette période d'un an pour l'effectivité. Et ça a tout son sens, parce qu'il y a des affaires en cours. Vous voyez, il y a des Maliens au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans d'autres pays. Et il va falloir, il y a des entreprises installées, il va falloir se donner un temps et de préparer justement toute la procédure, les textes juridiques, aller vers peut-être d'autres types d'accords. Il y a beaucoup de choses techniques. D'accord. Voilà, rassurez-vous que tout cela est conforme au droit, quoi. D'accord. Il y a vraiment pas de...
Une transition est-elle habilité à engager le pays dans une sortie d'organisation sous-régionale?
On va répondre à une autre question. Est-ce qu'il y a une disposition qui dit que c'est seul un président démocratiquement élu qui peut engager son pays sur la scène internationale? La réponse est non. Vous savez, quelle que soit la manière par laquelle vous venez au pouvoir, une fois que vous êtes investi, c'est-à-dire qu'on appelle le chef de l'État, ses fonctions, ça va avec des prérogatives que vous exercez. Et donc, c'est pour cela que vous êtes reconnu sur la scène internationale. Voyez-vous, les sanctions de la CEDEAO, on dit que le Mali est suspendu. Mais la CEDEAO ne dit jamais, je ne reconnais pas l'État malien en tant qu'entité sur la scène internationale, jamais. Oui. Donc c'est une suspension d'être présent dans les instances, dans les organes, mais ça ne veut pas dire que le Mali n'est plus parti de la CEDEAO, jusqu'à ce que c'est une année soit accouée, que le Mali continue à dire qu'effectivement, voilà, au revoir.
Docteur Ahamadou Touré, quelles sont selon vous les modalités de retrait de la CEDEAO?
Bon, les modalités de retrait de la CEDEAO, comme l'a dit le professeur, il faudrait observer pendant le 1 an si l'État en question ne se manifeste pas pour réintégrer. Et aussi, il y a une démarche qui déjà est en train d'entreprise par la CEDEAO. c'est-à-dire retourner vers le Mali, faire des négociations politiques pour le maintien. Mais comme l'a dit, il y a certaines actions qui sont en cours. N'oubliez pas que les Maliens sont au sein des instances de la CEDEAO. Des laïcs sont au sein des instances de la CEDEAO. C'est-à-dire que certainement, ils vont rentrer. Certainement, ils vont clôturer. Certainement, la CEDEAO a des projets en cours, des projets structurants qu'il faut finaliser, il faut délocaliser. Il y a la question des passeports qui va se poser. Il y aura d'autres problèmes qui, certainement, que nous ignorons aussi, qui vont se poser. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donner le temps à chaque de faire l'évaluation de cette rupture, de faire l'évaluation des mesures compensatoires que l'État que l'AS va certainement entreprendre. Et en ce moment, on peut parler de retrait avec effet, un retrait acté. Sinon, quand l'effet est immédiat, d'ores et déjà, c'est fini. On a vu la même chose avec le retrait de la mission au MINUSMA, le retrait du G5 Sahel. Donc, c'est-à-dire qu'un gouvernement, même pour sa crédibilité, quand il s'engage, il ne retourne pas.
Vous avez parlé d'un an d'observation pour voir si le pays ne va pas dire qu'il va revenir. Mmh. Est-ce c'est un an d'observation ou bien c'est un an de notification en avant? Demander un an avant de prendre toute décision.
La question qu'on se pose, est-ce que la CEDEAO a eu la notification? Elle confirme qu'elle n'a pas encore reçu de notification. Donc cela veut dire que l'État, en ce moment, nous avons vu le même cas. Lorsque le ministre avait demandé le départ de la mission, juste après la réunion du Conseil de sécurité, la demande a suivi. Donc c'est une fois que l'État demande, la demande va suivre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la négociation ou le temps d'observation peut entraîner, selon les négociations politiques, des enjeux? Parce que comme l'AS aussi a besoin de garanties, et la CEDEAO elle aussi a besoin de garanties, comment les deux entités vont coopérer pendant la durée de cette année? Ils peuvent discuter et renégocier et rebattre les cartes. Mais quant à dire que est-ce que ils vont certainement rentrer ou bien vont certainement acter, mais quand la décision politique s'engage, c'est pour ça qu'on dit généralement un État prend nécessairement de temps avant d'engager. Et nous sommes aussi dans une situation de souveraineté. De souveraineté sous fond de patriotisme. Et ce serait très difficile que l'État, que l'AS revienne sur sa décision.
Voilà. La CEDEAO précise qu'elle n'a pas reçu de notification officielle de la part de ces trois États membres. Alors pourquoi avoir l'annoncé avant que l'organisation ne soit informée?
Donc c'est des questions politiques. Et vous avez mis le timing, c'est un jour, pas de travail quand même, un samedi. Mais ce qui est sûr, un dimanche. Donc cela veut dire que c'est purement politique. Et il ne faut pas occulter ce qui se passe autour de l'AS en ce moment. Il y a trop de tensions. C'est comme on dit, le premier à parler, c'est comme si on est en guerre, le premier à donner le coup de poing, il risque de gagner la guerre. Donc l'AS, au moment où la CEDEAO est en train de prendre des mesures, nous tendons vers ce qu'on appelle la fin de la transition bientôt, et les sanctions vers le Niger sont là, et les relations compliquées du Burkina avec la communauté internationale sont là. Donc, il y a ce qu'on appelle une stratégie de communication. Maintenant, est-ce qu'ils vont envoyer la demande? Certainement, ils vont envoyer, si ce n'était pas envoyé. Mais la CEDEAO, dans son rôle de dimanche, peut dire qu'elle n'a pas reçu ce dimanche. C'est tout à fait normal. Mais pourquoi écrire ce dimanche pour dire que je n'ai pas reçu? C'est pour donner la chance à une négociation politique après. Quelles sont les conditions que la CEDEAO pose? Et quelles sont les sanctions que la CEDEAO a imposées à ces pays? Ça peut dire, bon, revenez, j'enlève les sanctions. Et revenez, mais ce que la politique souvent a hors du vide, le fait qu'il n'y avait pas la CEDEAO a créé l'AS. Et l'AS, elle s'est imposée. Et l'AS n'a autre chose que, à mon avis, une réforme, une refondation même de la CEDEAO adaptée uniquement aux besoins de ces trois pays. Et si l'AS marche, il y aura d'autres adhésions au sein de l'AS en tant qu'entité.
D'accord. Sortir de la CEDEAO est-il avantageux pour ces trois pays sans littoral maritime?
Ça, c'est une question vraiment pour les économistes surtout, parce que je dirais même que c'est une question piège. Mais bon, en tant qu'analyste, je pense que, en fait, c'est une glaive, c'est un couteau à double tranchant. D'un côté, en fait, il n'y a aucune sortie qui n'est pas assujettie à des difficultés. Toute séparation, il y a toujours des difficultés derrière toute séparation. Donc, il va de soi. Mais comme on le dit souvent, un peuple qui est déjà habitué, qui a été asphyxié pendant longtemps à travers un embargo injuste, illégal, illégitime et inhumain, comme l'ont qualifié l'ensemble de ces trois États. Donc, le peuple a eu déjà à goûter à toutes les difficultés, n'est-ce pas, avec cette organisation qui est la CEDEAO. Donc aujourd'hui, la séparation, je dirais, c'était la séparation, elle était déjà là, elle était déjà consommée.
Mais donc, est-ce que c'est avantageux pour ces trois pays?
Non, pour parler davantage, il faut déjà voir l'état dans lequel ces trois États se trouvaient. S'ils bénéficiaient déjà des avantages de la CEDEAO, ils n'allaient pas parler, n'est-ce pas, de sortie. Donc dès l'instant que le manque d'avantages a été constaté, est un fait, c'est ça qui a poussé maintenant ces États à la sortie. Mais maintenant, dire qu'après avoir plié bagage, est-ce que maintenant ils pourront bénéficier d'autres, ils pourront avoir d'autres avantages? La question, elle est là. C'est une question, comme le docteur l'a dit, c'est vraiment une question politique. Mais moi, je pense quand même que ce groupe de 15 qui est réduit aujourd'hui
à 12,
va subir des conséquences. Et ce groupe de 3 qui vient de se former aussi va réellement...
Quelles sont ces conséquences selon vous?
Mais les conséquences sont nombreuses. Il y a déjà des conséquences juridiques. Quand vous prenez déjà même les documents
des
de voyage...
Des conséquences pour les 3 pays ou des conséquences pour la CEDEAO?
Conséquences économiques. Il va de soi que la CEDEAO va peut-être... Les États membres de la CEDEAO, qui sont surtout des pays limitrophes de l'AES, vont avoir quand même un droit de douane peut-être accentué. Et puis le flux, n'est-ce pas, des changements monétiques ou monétaires va être peut-être davantage asphyxiant pour les États de l'AES. Mais je suis sûr et certain réellement que ces États membres de l'AES ont pris toutes les responsabilités, ont mesuré toutes les conséquences et sont dans la recherche de toutes les solutions possibles pour minimiser les difficultés que va engendrer cette sortie.
Et quand deviendra la libre circulation des personnes et des biens?
La libre circulation des personnes et des biens suit son petit bonhomme de chemin déjà au sein de l'AIS. Et puis, ce qui est bon à savoir...
Au sein des pays membres de la CEDEAO aussi...
Ce qui est surtout bon à savoir, c'est que ces trois États sont des États de consommateurs. La Côte d'Ivoire aujourd'hui ne peut pas survivre sans le Mali, sans le Burkina, sans le Niger, ce n'est pas possible. Le Sénégal ne peut pas survivre économiquement sans le Mali. Donc il y va de soi que les retombées économiques, sinon les conséquences économiques seront de part et d'autre. Et maintenant, comme il a dit, question politique, question intelligente, aux États qui sauront tirer leur épingle du jeu, les populations vont bénéficier, n'est-ce pas, de ces avantages. Sinon la CEDEAO fait en quelque sorte 300 millions de populations. Mais ces 300 millions de populations n'ont jamais, comme le professeur l'a dit, ces 300 millions de personnes n'ont jamais été dans la politique même de la CEDEAO.
D'accord.
Donc ça a toujours été une question politique, politico-politicienne.
D'accord. Voilà. Vous vous interrogez à un moment donné sur les conséquences de cette décision. Quelles sont selon vous les conséquences?
Oui, quand on fait une analyse fonctionnelle, du retrait des 3 pays de la CEDEAO, et on regarde, c'est-à-dire là on parle du rôle joué par la CEDEAO, non seulement au sein de ces pays-là, mais aussi même à peu près au dehors, de façon générale dans l'espace. Bon. D'abord, l'accord qui me semble être le grand succès de la CEDEAO, c'est l'accord sur la libre circulation des biens et des personnes, des capitaux, etc. aussi. Et donc, cet accord-là, voyez-vous, le retrait des 3 pays va le mettre naturellement à mal. Et ça va faire que, parce que ça même, ces 3 pays continentaux, mais qui sont d'une certaine façon assez, d'un point de vue géographique, un peu au centre aussi de l'espace. Ces pays vont devoir peut-être négocier des accords bilatéraux, c'est-à-dire des accords avec chacun des pays avec lesquels ils sont directement en lien, en frontière, etc. Comme ce sont des accords aussi qu'on est habitué à faire avec d'autres pays. Le Mali avait un accord de suppression de visa avec le Cameroun. Voilà. Même aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des modifications, mais on ne paye pas toujours pas. J'ai fait ça. Comme d'autres pays à travers le monde. Bon. Donc, ça peut être résolu et ça intéresse que les pays qui se retirent, ceux qui ne se retirent pas, il va falloir, c'est-à-dire ceux qui sont les acquis, qui bénéficient aux populations, aux entreprises, etc., il va falloir trouver un moyen non seulement de les conserver et de les consolider. Donc ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de discussions entre les différents pays. Voilà, ceux qui. Voilà.
Pendant ce temps, certains citoyens se demandent quel avenir pour la carte biométrique et le passeport biométrique de la CEDEAO.
Oui, ça c'est d'abord, chaque pays prend ses dispositions-là de façon individuelle. Il y a une sorte de, d'un point de vue technique, comment ils coordonnent tout ça. Mais c'est ce que je veux dire, en fait. Il y a beaucoup de, d'un point de vue économique, il va falloir rapidement que les différents États prennent du devant, sinon, dans l'immédiat, il peut y avoir un émoussement des activités de façon générale. Mais comme les États ont un an pour, ça leur laisse, je crois, suffisamment de temps pour envisager effectivement si un retrait devrait être effectif de prendre cela. Bon, mais maintenant, les projets d'avenir, c'est ça. Par exemple, nos pays, face par exemple à l'Union européenne, face aux États-Unis, face aux pays asiatiques, en termes de, ça dit au niveau de l'OMC, voilà, on va commencer peut-être à perdre un peu de poids en tant que force de négociation et l'exportation de nos produits.
D'accord.
Donc peut-être que, mais ça aussi, c'est vrai, il y a d'autres types de groupes qui existent, hein, les groupes des 97, il y a différents types de groupes qui existent sur la scène internationale. Donc j'imagine que ce soit les pays qui sortent ou ceux qui ne sortent pas, c'est-à-dire les deux blocs vont se trouver chacun en train de se réinventer et de se reconstruire pour pouvoir préserver les avantages pour ces populations et encore se renforcer pour pouvoir jouer de meilleure, occuper les meilleures positions possibles sur la scène internationale.
Docteur Touré, quelle considération sera réservée aux citoyens de ces trois pays dans les pays membres de la CEDEAO?
Bon, en termes de réciprocité, je pourrais dire que les trois pays, jusqu'à l'expiration de ce délai d'un an, vont s'attendre à ce qu'il y aura une reconfiguration par rapport à la libre circulation des personnes et des biens et aussi par rapport aux questions bilatérales des pays frontaliers avec l'AS. Et aussi que les gens se mettent en tête que désormais, on ne parle plus de Maliens, on ne parle plus de Burkinabés, Niger, on va parler de l'AS. Les négociations vont se faire de bloc. Est-ce à dire que nous allons avoir une seule carte d'identité, un seul passeport? Bon, c'est des questions politiques.
D'accord.
Qui vont...
Allez-y. Une voie de négociation est-elle possible pour mettre fin à cela?
Et à mon avis, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle des processus irréversibles. Parce que, comme l'a dit les trois chefs d'État, ils se sont lancés dans une phase de décolonisation totale et absolue de toute ingérence extérieure.
D'accord.
Donc, c'est-à-dire qu'ils s'assument et puis ils ont leur propre responsabilité de l'histoire qu'ils sont en train d'écrire. Quitte à dire que les avantages comme les inconvénients, les encombrants. Donc, c'est comme ça.
D'accord. Et existe-t-il des mécanismes possibles pour maintenir ces trois pays dans l'organisation sous-régionale?
Oui, peut-être qu'ils peuvent trouver de façon... Comme c'est une structure conjoncturelle qui est venue comme ça. Donc, ils sont en train de formaliser. Une fois que ça soit une structure bien structurée, une organisation structurelle, non conjoncturelle. Et là, ça va être vraiment... Et ce qu'on appelle un poids de négociation. Parce que les questions que les gens se posent, est-ce que la signature du Mali peut être reconnue comme au niveau de la CEDEAO? Non, parce que le Mali avec la CEDEAO, comme les suspensions étaient là, mais l'AS en tant qu'elle structure bien organisée, qui fonctionne de façon normale, peut avoir une signature.
En 10 secondes, la CEDEAO s'est dit prête à un dialogue. Alors, est-ce possible de dialoguer avec la CEDEAO pour une sortie de crise?
Je vais être très, très simple et très bref. Toutes les portes de négociation pour annuler, n'est-ce pas, ce retrait sont carrément fermées. Ça, il faut le reconnaître. La CEDEAO n'a jamais reconnu l'AIS. Donc, ce manque de reconnaissance de l'AIS est synonyme, n'est-ce pas, d'acter la sortie de l'AIS. au sein de, cet espace.
D'accord, économique. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Claque à la porte, nous étions avec Ibrahim Sissoko, analyste politique, docteur Hamadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali, et docteur Abdoul Sogodogo, spécialiste en relations internationales. Ce débat vous a été présenté par Imran Akilo Maïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.